Tribune PSG sur France Bleu.
Bonjour à tous, bonsoir à tous. C'était la semaine des grandes premières au PSG pour la première fois. Effectivement, eh bien, Paris n'a pas gagné hier soir. On va parler, bien sûr, de ce match nul à Bordeaux de partout, mais surtout, mercredi dernier, eh bien, pour la première fois, depuis en tout cas assez longtemps, Paris a montré un beau visage en Ligue des Champions contre Liverpool. Une équipe est-elle née au Parc des Princes? On va en parler bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu des patrons sur le terrain. On va notamment parler de la montée en puissance de Neymar, de Thiago Silva, de Marquinhos, mais aussi du coach Thomas Tuchel. Et puis Kylian Mbappé va-t-il passer à côté d'un premier ballon d'or? En attendant, c'est toujours le suspense. On va parler bien sûr du trophée individuel le plus convoité de la planète football à la fin de l'émission. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous et bienvenue à nos débatteurs, à la team de Tribune PSG, honneur aux dames. Bienvenue à toi, Émilie Ross, la Queen Bee du clavier.
Comment ça va?
Émilie qui est là, bien sûr, pour relayer. N'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions, vos interrogations sur le Facebook Live. C'est elle qui est là pour relayer vos avis. C'est un petit peu notre milieu relayeur à nous.
Exactement. Et il y a déjà plein de monde. Donc, on embrasse les Sébastien. On salue Michel, ma petite maman. Et on souhaite un bon anniversaire.
Bonjour,
à Glissou, parce que je sais que c'est ton anniversaire et tu es un fidèle. Donc, bon anniversaire.
N'hésitez pas à poster vos commentaires. Stéphane Bitt, ton foot123.fr. Et ici, c'est France Bleu Paris tous les matins à 8h15 à l'antenne. Comment ça va, tonton Steph?
Ben, ça va bien. Ça va très bien.
Pas trop déçu par ce match nul d'hier soir?
Non, ça va. En plus, bon, je m'y attendais un petit peu, hein, puisque, comme on l'a dit juste avant le début de l'émission, dès vendredi, je me doutais qu'il y aurait un peu de décompression après un si beau match.
Un coup de chapeau à tonton Steph qui avait non seulement pronostiqué le premier match nul de la saison, mais en plus, il a donné le bon score.
Bravo.
C'était l'état de grâce.
Est-ce que tu avais senti un match nul, toi, Eddy?
Non, je pensais que justement le PSG resterait dans cette très bonne dynamique, mais on peut comprendre aussi un petit peu l'état de fatigue des joueurs quant à l'enchaînement des matchs sur cette semaine.
Voilà, la petite analyse, on va en reparler bien sûr, de Joss, notre youtubeur foot et rap qui porte aujourd'hui, ce soir, un magnifique maillot. Bravo.
Ouais, il est beau. Hein.
C'est un pull vintage, tout le monde me demande où est-ce que je l'ai eu, mais je ne partagerai pas, parce que j'ai envie d'être le seul qui l'est. Voilà,
vous ne partagerez pas, vous ne pourrez pas partager, vous ne pourrez pas gagner le maillot de Joss.
Je donne juste un petit indice, Émilie peut savoir où est-ce que je me le suis procuré.
J'ai compris.
Vous pouvez l'harceler un peu.
Énorme mystère. Bon, vous pouvez toujours l'acheter, mais vous pouvez quand même gagner quelque chose ce soir dans l'émission. C'est le jeu Pro Cup. C'est bientôt Noël, pensez-y. Un petit jeu sympa, notamment pour les enfants. Pro Cup, le jeu estampillé Paris Saint-Germain à nos couleurs. Voilà, si vous partagez l'émission, bien sûr, tirage au sort après la fin de l'émission. Parlons de ce match Bordeaux-PSG. De partout, un petit peu déçu, surpris?
Non, ni déçu ni surpris, et j'ai passé un agréable moment, aussi surprenant que ça puisse paraître. J'ai trouvé ce match plutôt agréable à regarder. Les Bordelais n'avaient pas la mission facile, hein, puisque les 14 précédents étaient tombés sous les coups du Paris Saint-Germain, et là non seulement ils ont bien résisté, mais Paris a fait un bon match. J'étais content que les deux buteurs soient Neymar et Mbappé, tout un symbole, qui avait été plutôt bon, particulièrement Neymar face à Liverpool. Et puis c'était un match que finalement, bon, le Paris Saint-Germain aurait peut-être pu gagner, parce qu'effectivement il y a eu 2-3 erreurs d'arbitrage. Alors c'est vrai que la VAR...
Alors on va purger tout de suite le débat, s'il y en a un d'ailleurs de débat sur l'arbitrage. A priori deux actions quand même plus que litigieuse dans la surface de réparation. Pour vous, à chaque fois, il y avait pénalty sur Neymar en première mi-temps ou sur Choupo-Moting en seconde?
Oui, il y avait pénalty. En fait, le plus incroyable, c'est que la VAR, elle a été déclenchée sur des actions de jeu où c'était assez évident qu'il y ait but, et sur vraiment des actions très litigieuses où on avait le doute. Ouais, ils ont même pas pris la peine de l'activer, et du coup, ça pose même le débat de la VAR en soi, parce que je comprends toujours pas comment ça fonctionne, à quel moment elle est vraiment activée.
En fait, ce qui est incompréhensible, c'est le rôle du cinquième arbitre, en tous les cas celui qui est dans la cabine, qui devrait être celui qui alerte, puisque c'est celui qui a les images. Et là, non, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est l'arbitre qui est sur le terrain, qui lui demande ou est sollicité par des joueurs pour demander la VAR. Et c'est donc là, ça inverse complètement le rôle que ça doit avoir.
Émilie, on a son avis sur ce Bordeaux-PSG. Sur
on a des avis là. Il y a Mike qui nous dit « J'ai mis mon livret A sur Choupeau pour Bordeaux, mais Bordeaux l'a mis sur la VAR alors qu'il a gagné. » Xavier nous dit « Arbitrage catastrophique, deux poteaux, deux pénaux. » Sébastien nous dit « Di Maria en mode fantôme hier soir. » Je pense qu'on va en parler aussi un peu. Et il y a Joannie qui nous prévient « Salut la team, au travail aujourd'hui, donc je ne serai avec vous qu'à 50% de mes moyens. » Tiens, comme Di Maria en ce moment.
Joannie à 50%, c'est pas déjà mal. Très bien.
Et il y a Dominique Pardon qui nous demande comment on trouve le jeu d'Mbappé en ce moment. Et Olivier nous passe le bonjour du Brésil.
Parfait.
Merci.
Donc on a Mbappé et Di Maria aussi, hein, ça coche.
On va revenir sur Mbappé tout à l'heure. Tu voulais ajouter quelque chose sur Mbappé sur le match
Je pense que on n'est pas aveugle. On voit bien que depuis quelques semaines, ça va un petit peu moins bien pour lui. Après, moi, je pense que c'était assez prévisible. Après la Coupe du Monde qu'il a eue, pas de préparation, il a enchaîné les matchs. Alors il est resté en début de saison dans cette euphorie qui était la Coupe du Monde. Il a aligné des très très belles performances. Mais là, je pense qu'il est en train de justement payer le prix de tous les efforts qu'il a effectués.
Peut-être qu'il paye, mais tout est relatif quand même. D'une part, il arrive à marquer un but.
Et puis, contre
Liverpool, on va y revenir tout à l'heure dans l'émission. Évidemment, on va conseiller une grosse partie de cette émission au match contre Liverpool. Sa performance, elle est
loin d'être dégueu, comme on dit. Ouais, bien sûr. Moi, je trouve qu'on est un peu dur avec Mbappé. Alors, c'est vrai qu'il va pas faire avec le PSG des matchs comme il a fait contre l'Argentine, par exemple. Il peut pas montrer ça tout le temps. On l'a vu d'ailleurs l'année dernière avec Neymar. C'est pas si simple de réitérer à chaque fois les bonnes performances. Mais il est quand même dans les meilleurs buteurs du championnat, il en est à 10 ou 11, c'est lui qui est à 10, c'est Neymar qui est à 11, au contraire. Ouais. Enfin, je sais qu'ils sont proches l'un de l'autre à un but près. 11, et je pense que quand même, il fait une bonne saison, il fait un bon début de saison avec le Paris Saint-Germain. Si Paris a gagné ses 14 premiers matchs, et se débrouille encore pas mal en Ligue des Champions depuis maintenant quelques jours, c'est aussi parce que Neymar et Mbappé vont bien.
C'est les morphologies des matchs qui changent en fait.
Oui,
parce qu'Mbappé est toujours bon, sauf qu'effectivement, on se souvient de son entrée où il avait sauvé le... Il nous a sauvé plusieurs matchs, etc.
Il en sauve pas mal, là, au mois d'août, de mémoire, à chaque fois qu'il rentre.
Et là, en fait,
c'était à Guingamp, à Nîmes, il
global.
Avait été très bon.
Le niveau, il est plus...
Oui.
Et en même temps, il reste buteur avec Neymar.
Le PSG, ce qui lui manque aujourd'hui, c'est aussi un manque de lucidité. Et c'est peut-être aussi pour ça que on est un petit peu vraiment sur Mbappé. Sur plusieurs actions, il fait les mauvais choix. Il tente des dribbles alors qu'il est en difficulté. Il veut y aller tout seul. Ça, c'est des petits soucis de lucidité qu'il faut qu'il corrige. Mais effectivement, il est buteur sur le match d'hier et ça reste quand même une bonne prestation.
Et on va revenir évidemment sur la saison de Kylian Mbappé, notamment cette deuxième partie de saison. Est-ce qu'elle sera suffisante, cette deuxième partie de saison, pour la récompense suprême du football mondial ce soir?
Il y a quoi ce soir?
On va parler à la fin de l'émission. Je crois que c'est un truc qui s'appelle le Ballon d'Or.
Mais non.
Voilà, c'est une récompense qui vient de sortir. Mais qui fait quand même pas mal parler normalement.
Qui fait parler beaucoup avant et qui fait parler beaucoup après. C'est ça qui est bien.
On va se concentrer sur l'avant avec peut-être un invité surprise, mais de prestige du côté parisien. Ça sera à la fin de l'émission. Pour terminer ce chapitre sur Bordeaux, je vous propose de prendre un petit peu de recul sur la performance collective. Est-ce qu'il y a des choses? C'est vrai qu'on a vu un match agréable hier soir, assez enlevé, très soutenu. Il y a eu du spectacle. Et qu'est-ce qu'il a manqué finalement aux Parisiens pour l'emporter? À part peut-être un arbitrage un peu plus favorable, un peu de réussite
devant le but. Ça a été dit tout à l'heure, de poteau, un arbitre pas vraiment. Moi, à un moment, j'ai cru que Paris allait gagner 2-1. Ça me paraissait tout à fait faisable. Hein. Ils ont mené deux fois au score. Bon, Bordeaux est revenu deux fois.
Il y a eu surtout des Bordelais qui ont bien tenu, faut souligner aussi le jeu de Bordeaux qui était étonnant.
Je pense que c'était le match à ce moment-là. Peut-être qu'on rejoue dans une semaine et Paris gagne logiquement. C'est pas
la transition des dates aussi. Enfin,
ouais, c'est ça, l'enchaînement. Voilà, aussi. Je pense que Bordeaux n'a pas trouvé la méthode pour inquiéter le Paris Saint-Germain, pas plus que Liverpool ou Naples, hein, évidemment. C'était le bon moment d'arriver après ce match de Liverpool où là pour le coup, mais on va en reparler tout à l'heure, la Paris a laissé beaucoup d'énergie et ça a été payant puisque justement il y a eu la victoire et ils se sont relancés en fait pour la qualification et c'était bien là l'essentiel.
Je vous propose maintenant un gros plan sur l'un de ceux qui a dépensé beaucoup d'énergie mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes et puis qui a aussi brillé avant de sortir sur blessure. Ça, c'est un peu plus inquiétant. Il s'agit bien sûr de Neymar. Neymar encore buteur hier soir et qui a fait un très très gros match. En fait, le premier match que l'on attendait en Ligue des Champions mercredi dernier.
Hein. Il a été parfait. Alors moi qui l'ai souvent critiqué ici et un peu partout, là, pour le coup, il a été parfait. C'est-à-dire qu'il a mis toutes ses qualités, elles sont immenses et on dira jamais assez qu'il fait partie des 3 ou 4 meilleurs joueurs du monde. Et ça, on n'a aucun doute que techniquement, il est bien au-dessus. Mais alors, quand il offre ça, quand il n'en fait pas trop, quand il est au service du collectif, il est génial et on ne peut qu'apprécier sa performance.
Mais on dit au service du collectif, pourquoi ? Parce que effectivement, bon, déjà, il était au service parce qu'efficace offensivement. Mais au départ, il est aligné en 4-4-2, en gros, hein, sur un milieu, à la poste, au poste de milieu offensif gauche. Donc, il a défendu. Est-ce que ça, ça vous surprend? Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Est-ce qu'on pouvait l'espérer qu'il fasse enfin qu'il joue enfin son rôle de défenseur?
Bah, je pense que c'est vrai qu'il y a un grand changement depuis le retour de Coupe du Monde, en fait, de la part de Neymar. Au début, on disait que c'était que de la communication. Au final, ça se retranscrit même sur le terrain.
Sur son jeu.
Et sur son jeu. Et puis, c'est vrai que, moi, je trouve que le problème du PSG, avant, c'était qu'il n'y avait pas de leader vraiment naturel, comme il peut y avoir dans d'autres équipes. En fait, le leader, c'était celui qui était le meilleur de l'équipe, celui qui mettait le plus de buts. Et c'est pour ça qu'en début de saison, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de Kylian Mbappé parce que c'était le plus prolifique. Et finalement, on disait que c'était lui le leader. Mais quand on regarde bien cette équipe, le vrai leader, c'est Neymar. Et en ce moment, il est vraiment en train de.
En plus d'être
leader technique. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est.
Est-ce que c'est pas ça justement, Joss, le principal et pour vous tout ça, le principal changement par rapport au Neymar de la saison dernière, qui a toujours été techniquement quand même au-dessus, très clairement. Mais là, effectivement, comme tu dis, Joss, il n'est pas seulement leader technique.
Mais qui faisait le geste de trop et qui là ne le fait plus. Et là, il est tout simplement génial. C'est-à-dire qu'il a cette capacité exceptionnelle de pouvoir éliminer n'importe quel adversaire en 1 contre 1. Et si après, ce ballon est bonifié pour un coéquipier, mais c'est parfait. Ou c'était pas bon, c'est quand il venait de faire un beau geste et qu'il en rajoutait un deuxième, voire un troisième, et que ça finissait par, il finissait par perdre le ballon. Parce que moins de lucidité au deuxième ou au troisième geste. Alors que là, il garde toute sa lucidité. Il est bon, il est très bon, il est imprenable. Je pense qu'il rend fou tous les défenseurs, voire les milieux de terrain. Et après, il la donne. Et ben ça, c'est génial.
Et tu le dis toi-même, hein, Stéphane, c'est vrai qu'on t'a souvent entendu le critiquer, râler sur des performances qui, effectivement, notamment en Ligue des Champions, étaient loin d'être le seul, qui n'était pas abouti, qui n'était pas satisfaisant. Comment ça, c'est une métamorphose quand même, parce que non seulement il est patron, il va calmer des Verratti, il assume un rôle de patron sur le terrain, mais il va aussi haranguer le public du Parc des Princes. D'où elle vient cette transformation? Comment on peut l'expliquer?
Moi, j'appelle ça l'intelligence, je pense. Et ça, c'est très important, c'est même essentiel. Il est intelligent, donc il a compris que son intérêt, l'intérêt de son équipe, mais le sien aussi, et c'est normal, passait par ça. C'est-à-dire, il a le talent, il va le mettre au service du collectif, ça va bonifier l'équipe, Paris va, j'espère, se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Si Paris a le mental comme face à Liverpool, alors Paris peut envisager des choses très sympas. Alors, on n'en est pas encore à dire qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Ils sont pas encore qualifiés pour les 8e. Mais en tous les cas, il s'est passé quelque chose parce que pour la première fois, on attendait Paris. Paris s'est fait rentrer dedans et Paris a gagné. Et ça, c'est une grande première. Donc, à partir de ce moment-là, Paris est capable de faire des grandes choses et Paris doit énormément à Neymar et c'est pour ça qu'on l'a fait venir. C'est pour qu'il soit décisif dans des matchs comme ça.
Mais Neymar a morflé de sa Coupe du Monde aussi, je pense.
Enfin, rappelez-vous
des
vidéos. Il a fallu qu'il remonte la pente.
Ouais, mais ce qu'il y a de bien, et c'est vrai qu'au début, on pensait, tu le disais, que c'était un exercice de com', et comme tu disais, Joss, je pense que non, ça se voit sur son jeu, ça se voit sur le terrain. Moi, il me fait kiffer, là, depuis un mois. Ouais. C'est un régal, et enfin, pour moi, j'ai le Neymar parisien que j'attendais, en fait.
Mais aussi, dans ses dernières sorties, il a dit aussi se sentir vraiment mieux à Paris. Il y a aussi cette adaptation que le joueur doit avoir. Il venait d'un autre club, d'un autre pays.
Est-ce que la Pat Tourelle aussi?
La Pat Tourelle aussi, et son repositionnement.
On va revenir à la Pat Tourelle, bien sûr.
Son repositionnement aussi.
Est-ce que, alors justement, tu disais, on avait des doutes en gros hein, sur son implication, sur son bien-être à Paris. Est-ce que ça peut balayer tous ces doutes? Est-ce qu'on peut espérer que déjà, ça soit pas juste un petit feu de joie, mais voilà, quelque chose de plus durable? Est-ce qu'il va nous faire une grande saison? Est-ce qu'il va rester la saison prochaine? Est-ce que ça peut l'aider à s'installer, à se sentir bien à Paris, tout ça?
Pour moi, je dirais qu'il faut pas faire de plan sur la comète. Quand t'as un joueur comme ça qui, en plus, on n'a pas été habitué à ce genre de grand joueur. Faut profiter justement du moment présent. Faut profiter de ses performances. S'il se sent bien en ce moment, si ça nous permet d'avoir des titres, de faire des grandes prestations en Europe, profitons-en.
Ouais, ouais.
Et toute façon, on verra ce qui se passera en fin d'année. Mais j'ai quand même la sensation qu'il se sent bien. On sait très bien aussi que c'est super difficile de partir du PSG.
Alors ouais, ça, je pense que on l'oublie un peu trop facilement. Mais pour qu'il puisse partir, il va falloir quand même payer. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de clubs au monde qui seront capables de payer
ça. Non seulement une indemnité de transfert, mais aussi un salaire.
Exactement. Et je pense que la barre, elle est placée très, 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 très haut et que le club qui voudra l'avoir, ce sera 300 millions minimum. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y a un club, à part peut-être Manchester City.
Mais qui puisse mettre ça sur un joueur.
Voilà, exactement. C'est pour
vous réagissez sur le Facebook Live et c'est Émilie qui nous donne ses commentaires.
Claude nous dit, Neymar a enfin compris que le football était un sport collectif et qu'il devait mettre son ego sur le côté et se mettre au service du collectif. Et Olivier nous demande d'ailleurs si on a eu des nouvelles au niveau de la blessure de Neymar.
Pour l'instant, pas trop.
Non, c'est le même
rien
geste.
Ouais.
Alors, il est sorti exactement comme avec le Brésil face au Cameroun. Espérons que c'était le bon moment et que là aussi, il va pouvoir récupérer. Il lui reste une petite dizaine de jours. Ça me paraît être le minimum. Maintenant, ça commence à devenir répétitif. Alors, est-ce que les miracles se produiront plusieurs fois? J'irai demander à mes sources ce qu'elles en pensent et je vous tiendrai au courant le plus rapidement possible.
Émilie.
Et il y a Mathieu qui nous dit « Neymar nous a fait une raille. Rappelez-vous le nombre de temps qu'il a fallu à Rai pour s'adapter à Paris. »
Effectivement. Je peux citer peut-être une autre source qui était dans les couloirs du stade du Matmut Atlantique hier soir et voilà, qui connaît bien la zone mixte, qui connaît bien France Bleu Paris aussi. Bruno Salomon, t'embrasse.
On pense à toi, Bruno, on t'embrasse.
Qui ne s'appelait pas trop pour le sort de Neymar, bien sûr, on va rester prudent, il n'y a pas eu d'examen médicaux. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le staff du Paris Saint-Germain, apparemment, ne s'affolait pas trop autour de sa star hier soir après le match.
Moi, j'adore les rituels. Donc, si Neymar et Mbappé sortent avant, moi, j'aime bien. On a eu pareil il y a 10 jours.
Reprenons
les bases.
On demande la même chose contre l'étoile.
Et du Neymar, comme on a vu mercredi soir, bien sûr, on en redemande. On va parler de cette grande performance collective. Il n'y a pas que Neymar qui a brillé au Parc des Princes, bien sûr, mercredi soir. C'est une équipe et on a posé la question sur les réseaux sociaux, Émilie. Une équipe est-elle enfin née? La réponse
est Frédéric né.
Faut pas. Grosse référence pour les footballeurs des amateurs de foot de la Ligue 1 des années 90.
Ah, vous n'avez pas connu Frédéric né? Il jouait à Bastia.
On a posé la question, Émilie, sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux. Et donc, attendez, je cherche en direct. On a eu plus de 300 votants et la réponse à 75% est oui, une équipe est née contre Liverpool.
On a eu quelques petits commentaires qui relativisaient. On parlait notamment non seulement de l'équipe, mais de la tactique. Et on va y revenir, bien sûr. Mais quand même, sur cette performance collective, depuis le début de la saison, et même la saison dernière, notamment évidemment lors des deux matchs contre le Real Madrid, on se lamentait d'avoir un Paris Saint-Germain un petit peu trimballé, délité, faible, à chaque fois qu'il affrontait une grosse équipe en face de lui. Ça y est, enfin, on a vu un PSG costaud, les amis.
Bah, quand la défense tient, c'est déjà beaucoup. Et là, Dieu sait que la défense a été excellente face à Liverpool. Quand il y a un gardien qui rassure tout le monde, ça aide encore. Quand ça se passe bien au milieu et que devant tout le monde fait le travail, et ben on arrive à ça. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quand tout le monde se met au service, mais on le savait, on l'a dit ici plein de fois, la seule solution pour Paris, c'est que tout le monde soit au service de tout le monde, que ce soit collectif et que quand on perd le ballon, il y a toujours quelqu'un derrière pour aller le récupérer ou en tous les cas pour empêcher l'équipe adverse de développer son jeu. C'est ce qui s'est passé et finalement Paris a quelque part, ça n'a pas été simple évidemment parce que Liverpool, c'est pas le premier venu, mais Paris a étouffé quelque part et en tous les cas a enrayé toutes les tentatives de Liverpool ou quasiment. Il a fallu juste cette bévue qui a amené le penalty, mais bon.
Émilie, ça réagit sur une équipe est-elle née ?
Exactement, il y a Fab qui nous dit « J'hésite entre le oui et le non, on avait déjà l'équipe et je ne pense pas qu'une équipe soit née, mais plutôt qu'elle a une vision différente de la gagne. » Et Ferdinand nous dit « On a surtout trouvé un système de jeu. »
Alors le système de jeu, on va y revenir bien sûr, parce que Thomas Tuchel, lui aussi, sur son banc, il a signé une performance de haut niveau, on va dire. On va pas s'emballer, mais en attendant sur la performance collective, sur l'état d'esprit, est-ce que, Jos, toi tu t'attendais à une telle performance ou est-ce que tu étais un peu résigné?
Non, j'avais la pression parce que c'était quand même Liverpool en face, finaliste de la précédente Ligue des Champions. Moi, le seul truc que je dirais, c'est que on aura la confirmation lorsqu'il y aura un autre match face à Belgrade.
Vous êtes gourmand, tout ça.
Non, je suis pas gourmand, mais parce que avant de dire qu'il y a vraiment une équipe, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça, faut une confirmation. On a eu une première réponse. Est-ce qu'ils sont capables de réitérer ce genre de performance sous une pression différente? À voir. Je dirais plus que pour une fois, j'ai l'impression que l'équipe a écouté son coach. Plutôt qu'une équipe aînée. L'équipe a suivi les instructions du coach sur ce match-là.
C'était dessiné. Franchement, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus comme ça, honnêtement.
Il y a un coach qui tente des choses et ça, c'est quand même très bien. Et pour l'instant, ça se passe bien.
Emery tentait des choses aussi, sauf qu'il n'était pas écouté. Il n'arrivait pas à tenir son équipe.
Donc
là, on a un entraîneur qui tient son équipe.
Il tient son équipe. Il est écouté et il a en plus une vision qui est quand même assez moderne et assez sympa du foot, quoi.
Il tient son équipe aussi, c'est le patron sur le banc, mais il a des relais, il a des patrons aussi sur le terrain, maintenant quasiment ligne par ligne. On a eu aussi une grande performance, non pas de Neymar en tant que patron, pas seulement en tout cas, au milieu de Marquinhos, Thiago Silva dans les lignes arrière. On les a revus en vrai patron. D'ailleurs, la plus belle image pour moi, et je pense pour beaucoup de monde, on est d'accord. Vous savez très bien de quoi je parle. Ce check dans ce trans-là.
On dit bonjour comme ça avec tonton.
C'était magnifique. Mais ça dit des choses quand même, parce que ça fait longtemps, notamment Thiago Silva, qu'on ne l'avait pas vu dans cet état-là.
Vous les aviez déjà vus comme ça, dans cet état-là.
C'est vrai. Ça fait longtemps.
Il y avait un état d'esprit aussi. C'est ça qui leur manquait. On l'a assez dit. Il manquait ça à Paris. Parce que, en fait, c'était, on parlait de mental. On a parlé de tout avec Jos. On a parlé de la Ligue 1. Est-elle un bon terrain d'entraînement ou pas? Mais c'est vrai que les mentalités, c'était surtout ça qu'il fallait changer. Et sur ce match-là, où tout le monde est collectif, où tout le monde joue pour l'équipe, où le seul objectif, c'est de garder la victoire, là, Paris a répondu présent.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que, j'ai la sensation que cette année, il y a des joueurs qui ont progressé. Enfin, Marquinhos, au début, c'est vrai qu'on disait que bon, milieu de terrain, ça peut être bizarre, est-ce qu'il va tenir son rôle?
On va lui accorder un chapitre.
Ouais, assez.
Il mérite Marquinhos parce qu'effectivement.
Mais honnêtement, depuis quelques semaines, il monte en puissance avec Kerrer et même Thiago Silva. Mais Thiago Silva, on a quand même l'habitude. Mais ouais. Marquinhos et Kerrer, c'est vraiment les deux révélations là en défense et qui progressent vraiment super bien.
Avant de passer à Marquinhos, un petit détour d'abord par le Facebook Live, Émilie. Il y a des commentaires.
Il y a Hervé qui nous dit « Un esprit d'équipe est né, pour le reste, je demande à voir. » Donc un peu comme Joss, en fait. On va attendre que ça se construise un peu plus. Claude nous dit « Sous l'ère Tourelle, un mental de fer se construit, la rigueur allemande. » Olivier nous dit que le 12e homme a aussi aidé à faire gagner ce match. Et il y a Ibou qui nous dit « Parlez, s'il vous plaît, de mon Juan Bernat, comment vous le trouvez ?»
Ouais,
ça mérite la minute Bernat.
Imposons
la minute Bernat.
Je ne sais pas si vous avez suivi sur votre deuxième écran mercredi soir la soirée en Facebook Live avec la team, mais moi je me rappelle très bien de Bruno Salomon qui hurle pour le 1-0 pour Paris et derrière quelqu'un qui nous crie meilleur arrière gauche du monde, c'est-à-dire toi.
Non, c'est pour rire. Mais c'est vrai que il est incroyable ce joueur en fait.
Il est incroyable.
Il s'est super bien adapté à son système, à sa nouvelle équipe. Il est décisif. Hier encore même à Bordeaux, il était super intéressant.
Mais c'est un ancien attaquant et ça se voit. Je trouve que ça se voit dans ses gestes techniques. Quand il a la balle dans les pieds, il est pas comme un défenseur.
C'est vrai.
C'est intéressant.
On va continuer à savourer cette belle victoire en parlant de Thomas Tuchel. Je pose une dernière question à dire pour relativiser, pour faire en sorte qu'on s'enflamme pas complètement quand même. Est-ce que c'est un feu de joie, c'est un feu de paille ou est-ce que cet état d'esprit il va durer? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes guerriers à Belgrade?
Rendez-vous exactement le 11 décembre à 23h et là on pourra vous dire
si oui ou non. Je pense que oui. Parce qu'en plus, maintenant, on a le retour de Daniel Alves. Au goal, on aura Buffon. Il y aura des grosses personnalités sur le terrain. On espère avoir Neymar et Mbappé.
Il va manquer que Rabiot.
Il va manquer que Rabiot.
Sur
Rabiot, vous inquiétez pas, les amis.
On va parler de
Rabiot. Non, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura Cavani?
Ça, c'est la vraie question, effectivement. Difficile de dire pour Edinson Cavani, effectivement. qui est pas forcément
il a peut-être encore sa place dans ce système là. Je pense que c'est peut-être Belgrade sera peut-être sa dernière chance.
Est-ce que, enfin, une question comme ça, mais est-ce que l'état de forme de Neymar coïncide justement avec le fait que Cavani sorte de l'équipe?
Le principe des vases communicants, tu veux dire.
Bah, est-ce que foot, c'est lié?
Bah, oui, forcément. Au foot, il faut faire quoi? Il faut marquer des buts. C'est longtemps, ça a été Cavani qui en a marqué.
Ouais.
Maintenant que Neymar et Mbappé en mettent beaucoup, en mettent plus que Cavani, bah, logiquement, il est moins indispensable. Attention, ça, c'est, je raisonne comme va raisonner l'entraîneur. Hein. C'est pas ma vision des choses. Il est un peu moins indispensable qu'avant. Voilà, tout simplement.
En tout cas, c'est l'un des casse-têtes effectivement que doit résoudre en permanence le coach Thomas Tuchel. Et on va dire que quand même, de façon globale, que ce soit sur les trois attaquants, sur le système de jeu et plus globalement sur l'équipe, eh ben il s'en sort très très bien Thomas Tuchel.
Il s'en sort très bien parce que il a tout compris à la communication. Il est souriant, il a son petit accent, il comprend des mots, il les comprend pas, il se fait traduire. Tout ça est très sympathique. Plus, pour l'instant, il a des résultats, parcours parfait ou quasiment parfait en championnat. Je pense qu'il peut vraiment franchir un cap si Paris accède aux huitièmes de finale, puisqu'on n'a pas arrêté de dire que c'est là-dessus qu'on l'attendait. Évidemment, on savait bien ou on sait que Paris va être champion. Là, c'est pas vraiment une surprise. Mais pour qu'il n'y ait pas de faute de goût dès la première année, il faut qu'il sorte de la phase de poule et qu'il aille en huitièmes de finale. Si en plus, Paris a un peu de chance ou ça se passe bien, et qu'il atteint les quarts de finale, je pense qu'il y aura bientôt une statue à mettre à Tuchel devant l'entrée du Parc des Princes.
Moi, ce que j'adore aussi, c'est le fait qu'il inclut à chaque fois des jeunes. Hier, face à Bordeaux, on a pu voir Nsoki, qui a eu du temps de jeu, Nkoukou. Enfin, il arrive vraiment à chaque fois à faire tourner, à donner du temps de jeu aux jeunes. Et je pense que vraiment, tout le vestiaire est impliqué et a envie de rendre l'appareil à l'entraîneur.
Et ses déclarations?
Sa façon de communiquer, tu veux
dire? Sa façon de communiquer. Enfin, après match, quand il parle de l'arbitrage, mais il s'arrête pas là. Enfin, il revient aussi sur le jeu de ses. Enfin, je trouve vraiment que c'est un sans faute.
Petite parenthèse, effectivement, au niveau de la communication, c'est vrai que ce qui est assez fascinant, c'est qu'il arrive à pas être langue de bois, en fait.
Il dit ce qu'il pense.
C'est très compliqué, de vexer personne, de ménager les égos quand on est entraîneur. Et lui, il arrive à donner de la matière aux journalistes, donc aux téléspectateurs, aux internautes. Et en même temps, pour l'instant, il va pas dans le décor.
Et avec le sourire. Et ça, c'est très important. Vous pouvez dire beaucoup de choses avec le sourire.
C'est vrai.
Je vais tenter d'ailleurs.
Je pense qu'il respecte aussi le championnat. Moi, je trouve qu'il respecte vraiment le championnat.
Oui.
Il a pas une vision simpliste. C'est-à-dire que même les records, les victoires qui s'enchaînaient, pour lui, c'était pas quelque chose de dû. Fallait à chaque fois combattre les équipes. Il a eu beaucoup d'éloges pour Bordeaux hier. Et ça coïncide aussi avec les éloges que Pep Guardiola a fait à Lyon, en disant que dans cette Ligue 1, il y a aussi des belles équipes.
Parlons un petit peu de sa victoire sur le plan tactique.
Parlons de Lyon, je suis des verges, on s'est trompé d'émission.
Non. Alors on part de Ligue des Champions, donc on parle pas de Lyon. Oui. Non, je plaisante.
Ah, bravo.
Est-ce que par contre, on peut juste rappeler que lundi dernier, on a fait à peu près 10 minutes sur l'Europa League?
Oui, c'est vrai, on avait dit qu'on allait en parler.
C'est bien de faire aussi. Les amis, on est toujours Ligue des Champions, on est bien contents.
C'était pas fou, hein. Ça pouvait arriver.
On est bien contents.
Ça pouvait arriver, mais grâce à nos Parisiens et à leur maître tacticien, à Thomas Tuchel, on n'est pas en Europa League, on est bel et bien en Ligue des Champions. Et on le doit notamment à ce coach allemand Thomas Tuchel. Est-ce que c'est pas sa victoire finalement? D'abord la sienne avant la victoire du collectif.
Quand une équipe gagne, forcément, quand ça va pas, on dit toujours c'est de la faute de l'entraîneur. Alors, quand ça va bien, et c'est aussi un peu de la faute de l'entraîneur. Donc, oui, bien sûr qu'il est grandement responsable des bons résultats. Et pour l'instant, il a su faire passer son message. Apparemment, il privilégie pas spécialement un joueur ou un autre. Il voit tout de façon collective. Et ça, je pense que ça parle à tout le monde dans un vestiaire. Normalement, ça doit parler à tout le monde.
Faut qu'on ait un petit peu qu'on n'ait pas trop la mémoire courte. Je me rappelle que pendant le match, on est nombreux à s'être interrogés alors qu'on était en pleine souffrance face à Liverpool à la 65e minute.
On n'était pas bien du tout.
Et là, il fait rentrer Choupo-Moting, il fait rentrer Alves, on la ramène pas trop. Lui qui a raison.
T'as raison, mais tu peux même remonter au moment où tombe la compo d'équipe même. Alors. Où là, on se dit, mais c'est pas possible. Ça fait des semaines qu'il joue avec un autre système et là, il ramène tout le monde et il les met dans une position qu'on n'attendait pas du tout. Et c'est la réussite. Donc, c'était c'était avant, c'était pendant son coaching, effectivement, mais il sait, ouais, Choupo-Moting, bon, ce sera jamais Gerd Müller, ou enfin, bon, pour les plus jeunes, ce sera jamais un tueur de surface, mais il est au service du collectif, et ça, je pense que Tourelle aime ça. Il sait que, bon, il a peut-être un peu moins de qualité, mais sur un malentendu, il est même capable de marquer un but. Alors voilà, je sais que je suis à côté de la présidente du fan club. Voilà.
Mais j'attends son but, moi.
Mais voilà, et son but viendra. Et son but viendra. Et ça donnera encore raison à Tourelle, je pense.
Et ses remplacements, c'était au service d'un système, hein, avec 4 défenseurs pour défendre, 3 défenseurs avec Marquinhos qui venait s'intercaler entre les centraux, 3 défenseurs pour attaquer. Est-ce que ce système a de l'avenir? Il a bien marché, il a très très bien marché pour Liverpool. C'est pas ça sa grosse trouvaille?
Ouais,
c'est pas la patte Tourelle, comme on a eu 4-3-3 pour
l'idée
Blanc.
D'un Marquinhos qui monte et qui descend et qui est derrière la défense ou devant, ça c'est génial. Mais il y a peu de joueurs qui peuvent faire ça. En tous les cas, lui, il l'a pas bien fait les fois où il a été essayé. Là, cette fois-ci, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt que ça portait ses fruits, parce qu'on l'a vu dans des gestes défensifs, mais on l'a vu aussi au départ d'action. Donc, c'est qu'il a détecté chez ce garçon probablement un potentiel technique que n'ont pas forcément Thiago Silva ou Kimpembe, voire Kerr, on le saura un peu plus tard parce que pour l'instant on ne le connaît pas assez bien, mais ce qu'on voit, qu'il fait des belles choses. Mais voilà, Marquinhos a peut-être cette possibilité. Moi, il m'a bluffé. C'est-à-dire que j'ai été le premier à dire que dans ce rôle-là, il n'était pas à l'aise, qu'il était mieux en défense centrale, ce qu'il avait montré depuis qu'il était à Paris. Mais là, face à Liverpool, il a montré que dans un autre rôle, qui est un rôle un peu bâtard, mais qui apporte beaucoup à l'équipe, à la fois, il est capable d'être presque quatrième défenseur central, mais d'être aussi le premier relanceur. On va pas appeler ça une sentinelle. Avant, on appelait ça le milieu devant la défense. C'était un peu ça. C'est ce qu'était Benoît Coé ou d'autres, pour ceux qui ont connu cette époque.
Et il faut quand même se rappeler, réaliser qu'au coup d'envoi, en fait, en gros, pendant tout le match, on est au milieu avec un seul milieu défensif de métier, contre Liverpool.
Tout à fait. Mais parce que les autres vont au mastic, comme aime le dire Bruno, ils négligent pas les tâches défensives. Ah bah, c'est sûr que vous tenez un milieu de terrain.
Que nous avons un gros éternuement sur l'aile gauche.
Mais oui, c'est la saison. Hein. Elle a voulu me déstabiliser. Bien vu, Émilie.
Dis-nous, tonton.
Mais je vous dis que un suffit quand il est aussi bien aidé qu'il a pu l'être sur les phases défensives. Voilà. Et...
Ouais, c'est du dépannage quand même. Moi, je trouve que c'est du dépannage. C'est pas forcé. Marquinhos, il est bon. C'est-à-dire qu'il a été propre, il a fait les efforts, mais on a vu qu'à la 60e à Bordeaux, il avait des crampes.
Ouais.
Du coup, ça demande énormément d'efforts.
Bien sûr.
Je pense pas que ça soit le meilleur joueur qui. Faut pas l'installer sur la durée à ce poste-là. Là, ça dépanne parce qu'on n'a pas de joueur.
Mais tu dis, c'est le mot, il y a un côté un peu dépannage, même si sur le terrain, ça a été assez brillant.
Ça dépanne.
Est-ce que, justement, Thomas Tourelle, c'est le magicien ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un bricoleur génial, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu contraint par la fatalité parce qu'il a un mercato quand même assez pourri, on va dire. Il a manqué un milieu défensif. En plus, il y a des soucis avec Rabiot. Donc, du coup, il se retrouve à composer, mais pour le coup, bien brillamment.
Il bricole bien. Du coup, on peut dire que c'est un magicien. Mais concrètement, dans le match de Marquinhos, il n'y a pas assez de projection vers l'avant. Et un milieu de métier à ce niveau-là le ferait. Il a été très propre dans son jeu, avec des bonnes relances vers l'arrière. Mais c'est vrai que les projections vers l'avant, elles étaient plus compliquées. Mais c'est vrai que face à Liverpool, il l'a fait. Il l'a très bien assuré ce rôle-là. C'est un match énorme qu'il nous a proposé.
Oui, on n'en fera pas une sentinelle. Mais ça
peut dépanner.
Bien.
Voilà,
vous pensez tous les deux que il ne s'est pas définitivement installé en
Suisse. Non,
on va le perdre.
Il va s'épuiser. Il est tellement bon en défense centrale.
En plus,
je pense que il fait avec ce qu'il a. Et effectivement, il aurait espéré avoir mieux au milieu de terrain. Et effectivement, le milieu de terrain, ça sera pour l'instant, c'est le talon d'Achille du Paris Saint-Germain. Évidemment, il y en avait déjà pas beaucoup. Il y en a qui est en partance là. À mon avis, c'est fait ou quasiment. Et donc, forcément, ça devient très compliqué. Donc, il faut que des joueurs comme Draxler, comme Di Maria, voire d'autres, renforcent ce milieu de terrain. C'est pour ça que le 3-5-2 a son charme de temps en temps.
Il y a des avis sur Marquinhos et sur le milieu de terrain sur Facebook Live.
Oui. Alors, pour conclure aussi sur Tourelle, François nous dit Tourelle, faut attendre le 11 décembre. Et c'est un peu l'avis global. Ok, on s'enflamme, mais on va attendre surtout le 11 décembre. Et il y a Joanie qui nous dit, en plus de savoir se sacrifier, pour son club, Marquinhos apprend à pas de géant son nouveau poste.
quand même, il apprend à pas de gens, je suis assez d'accord avec ça. Je
pense il a progressé.
Je pense que vous aussi. Il est quand même sur une courbe qui est super ascendante. Et bah oui. Il n'a pas moyen de s'installer définitivement à ce poste-là.
Ah, il a
sachant
moyen,
qu'encore une fois, on a très peu de défensifs dans le milieu défensif.
À mon avis, alors t'as raison, si des fois Paris, pour une raison X ou Y, ne pouvait pas se renforcer à la trêve au milieu de terrain, bah, je pense que c'est une solution de remplacement qui est appelée à durer. C'est du dépannage, sauf que là, il a bien dépanné contre Liverpool.
Oui,
donc, il est capable de dépanner sur des gros matchs.
On a un match de poule. Pour gagner la Ligue des Champions, on va avoir des équipes beaucoup plus compliquées, avec des systèmes beaucoup plus complexes.
Et c'était quand même contre le dernier finaliste. Hein.
Non, mais oui, mais on sait très bien que Liverpool voyage mal. Enfin, il y avait pas mal de points qui étaient aussi en faveur du PSG.
Du mal à gagner à l'extérieur, on est d'accord.
Mais Marquinhos, en tant que sentinelle, je trouve que techniquement, il est un peu limité. Et moi, j'aurais plus vu un Rabiot capable de faire ce qu'il a fait. Normalement.
Oui, normalement.
Mais vu qu'il veut pas dépanner, on prend Marquinhos.
Non, voilà, c'est plus une question de dépanner là. Je pense que là, on est passé dans une autre phase là, entre lui. Là, bah oui. Là,
bah oui, non, bah oui.
Là, ça sent la fin quand même. Hein.
Ça, tu le vis comment, tonton, ça va?
Attends.
Radio, attention.
C'est un joueur que j'aime bien.
On va te consoler, t'inquiète.
Rabiot tout à l'heure. D'abord les commentaires.
Il y a Globule qui nous dit Marquinhos en 6, ça ne marche pas. On l'a vu contre Bordeaux, contre Liverpool, il avait un rôle hybride, une sorte de libéro avancé.
C'est ça, exactement. Mais il n'y avait aucune projection vers l'avant.
Très juste, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. On appelait ça un libéro devant la défense. C'est ce qu'a fait Daniel Bravo, Benoît Coé, voire Bogossian avec les Bleus un temps. Exact.
En tout cas, une belle réussite signée Thomas Tuchel d'avoir installé au moins pour dépanner Marquinhos dans ce poste, effectivement, comme dit Globule, plutôt un poste hybride.
On aurait signé la semaine dernière à la même heure pour que Paris obtienne les deux résultats.
C'est l'un de ce tour de magie. Il s'est passé quand même depuis le début de la saison, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les amis devant votre écran, mais beaucoup de choses sur le plan tactique. Est-ce qu'il ne s'est pas passé déjà beaucoup plus de choses que sous Emery, avec tout le respect qu'on leur doit et l'estime, et sous Laurent Blanc? Il dit ça un peu pour provoquer, parce que Emery il réussit bien aussi en ce moment avec Arsenal.
Il a fait des bonnes choses. Il va mieux là.
Il a installé le 4-3, il s'est passé des choses. Et puis... Mais n'empêche que... Il tente énormément de choses, Thomas Tuchel.
On peut défendre les deux prédécesseurs, hein. Laurent Blanc, Paris jouait très bien. C'était quand même extrêmement agréable de regarder le Paris Saint-Germain à l'époque, Laurent Blanc. Alors, ok, il y avait du beau matériel, mais il y a encore du beau matériel. Emery, moi, j'ai toujours été persuadé que c'était un bon entraîneur. Peut-être qu'il est, il a eu Neymar au mauvais moment. Et je crois que ça a plombé le mauvais moment, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il fallait qu'il s'adapte. Il fallait que Paris a changé d'air sous Emery, et ça s'est moyennement passé. Mais j'ai jamais douté de ses qualités d'entraîneur. Je l'ai souvent défendu ici, d'ailleurs contre vents et marées. Et il est en train de montrer à Arsenal que c'est un bon entraîneur. Et maintenant, Tuchel aujourd'hui, mais une fois de plus.
Et les internautes ont raison. Sur la base de ce qu'on a vu, parce que maintenant on a de la matière. Hein, on est plus très très loin, on va dire, du tiers de la saison. On a du matériel pour juger. Est-ce qu'il n'est pas mieux parti que les autres? Est-ce qu'il n'est pas parti pour mieux faire que les autres, Thomas Tuchel?
Si, et puis en plus...
Qu'il n'a rien gagné pour l'instant, mais en tout cas, il est parti sur de grosses bases.
Il n'a rien gagné pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui jouent en sa faveur. Il arrive à créer un esprit d'équipe, il arrive à gérer les égos de chacun des joueurs, il arrive à donner du temps de jeu aux jeunes. C'est les transferts qu'il a fait, beaucoup ont douté, mais les joueurs lui donnent raison. Mais son président le soutient.
Il fait beaucoup en peu de temps, en fait. Là, l'avantage, c'est qu'on voit beaucoup de choses sur une période commencée.
Mais c'est à la fin...
Musicien, tout à fait. Voilà. Mais c'est très juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'enflamme un peu, mais il faut pas non plus, parce que imaginez que ça tourne mal à Belgrade et il sera première.
Tu sais quoi, tonton, avant même de parler de ça, on est tous là en train de dire oui, mais la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, on s'en fout. Mais s'il la gagnait pas.
Ah bah oui,
je pense que ce sera un gros problème aussi.
Ouais, pour le coup, cette année, franchement, il faut que Paris franchisse un cap en Ligue des Champions. Voilà, c'est
oui,
tout.
Oui, mais il a aussi ses objectifs-là.
Il faut pas oublier la base.
Il faut tout gagner, faire le triplé, quadruplé national.
Ouais, alors moi, pour un quart ou une demi-finale de Ligue des Champions, je laisse une coupe
regarde
de la Ligue
les
de
médias.
Côté.
Oui, ouais, mais regarde les médias tout juste le hier par rapport au match nul et les gens, les supporters. Juste un match nul, le premier match nul.
Ils en peuvent plus.
Et là. Ça s'embrase.
Mais c'était beau aussi parce que les joueurs, on avait l'impression qu'ils avaient
mais moi,
perdu.
Ça s'embrase.
Les joueurs, hier, on aurait dit qu'ils étaient une défaite. Ils étaient dépités à la fin du match.
Bah, et ça nous rassure sur le niveau de notre Ligue 1 Conforama qui est quand même capable de faire vibrer les gens.
Et oui, voilà. Un petit semblant de suspense, c'est un petit coup de chapeau d'ailleurs à nos amis bordelais qui ont fait. Une belle prestation.
Mais c'est,
tiens, petite parenthèse, est-ce que ça peut donner des idées aux adversaires? Parce que finalement, ils ont tenté leur chance et le résultat montre qu'ils ont eu raison.
L'idée, c'est que Paris est un peu meilleur à prendre après avoir après une débauche d'énergie le mercredi soir où tout le monde sort minable et épuisé. Alors effectivement, c'est bien d'arriver derrière et dans un contexte où il y a déjà eu 14 victoires, où Paris est champion d'automne avant le coup d'envoi. Voilà. Sifflet, camarade.
Allez, je vous propose de parler désormais des absents d'hier soir
les
et pas n'importe lesquels.
Les absents ont toujours tort.
Alors, on va bien sûr parler d'Adrien Rabiot, mais d'abord, quand même, Edinson Cavani, il n'était pas là, lui non plus. Remplacer la 65e contre Liverpool, est-ce que c'est pas inquiétant? Est-ce qu'il va pas finir, même si pour l'instant, il se montre de bonne composition. Est-ce qu'il ne va pas finir par craquer, Eddy?
On a eu directement le retour de son entraîneur hier qui nous a dit que Cavani avait beaucoup trop joué avec l'Uruguay. Et qui le préservait et qui ferait son retour face à Strasbourg. Donc, je pense qu'il faut arrêter de mettre la pression aussi à l'équipe. Cavani n'a fait aucun commentaire par rapport à quoi que ce soit.
Il en fera pas.
Même lorsqu'il sort, il est un petit peu déçu. Mais quel joueur est heureux d'être remplacé? Aucun. Il sera de retour en tant que titulaire face à Strasbourg. Donc, je trouve qu'il y a une logique aussi de la part de Tourelle de bien gérer son effectif. On a commencé à le critiquer parce que justement, il y a eu les blessures de Neymar et de Mbappé. Il a essayé de préserver son numéro 9 et il sera de retour.
Déjà, si on attend les petites phrases de Cavani, on va attendre longtemps. Parce que quoi qu'il arrive, s'il n'est pas content...
C'est pas vrai. Quand il y avait Zlatan Ibrahimovic, il n'était pas content de jouer à droite, à gauche. Il le disait.
Mais
là,
non,
y a pas de
il le disait pas.
Il le disait.
Il disait que c'était pas son poste au bout de six mois.
Non, mais il se plaît.
Il a une capacité à encaisser ce garçon. Avant qu'il te dise qu'il n'est pas content, il sera déjà parti. Parce que ce sera sa façon à lui de le dire. Évidemment. Évidemment, je pense pas qu'il fera de scandale.
Un jour, pour qu'il parte du PSG, il faut vraiment qu'il y ait une proposition intéressante, intéressante financièrement. Cavani, il a un salaire aujourd'hui, même son retour à Naples.
Et tu
je pense
crois
pas
que
qu'il
Cavani,
pense.
Connaissant le joueur, tu crois qu'il va se satisfaire du. Il a beaucoup joué avec l'Uruguay et maintenant il va être titulaire tranquillement à Strasbourg.
Non, mais il faut voir comment l'enchaînement des matchs vont s'effectuer. Ouais. Peut-être que ça va être un roulement comme il le fait avec Areola et Buffon.
Est-ce qu'il peut se satisfaire de ce roulement?
Qui est quand même
le meilleur buteur de l'histoire du PSG.
Peut-être que c'est ce qui va arriver.
On ne sait pas.
On connaît quand même un peu Cavani. Il fait partie de ses joueurs.
Pas l'ambition de Tourelle par rapport à Cavani.
On aura notre réponse face à Belgrade. S'il ne joue pas à Belgrade, là, il y aura un vrai problème.
Il est comme Ibra. C'est des mecs qui ne veulent jamais être absents. Donc quand ils le sont et qu'ils ne sont pas blessés, ça ne leur plaît pas.
Il y a une rotation aussi, comme disait Joss, pour ménager un petit peu la mécanique.
Effectivement, on peut se poser des questions. C'est vrai que Choupo-Moting, il est rentré hier, Cavani aurait pu rentrer à sa place. C'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais l'entraîneur a directement éteint le feu. Il a dit qu'il sera titulaire à Strasbourg. On verra après Strasbourg s'il sera dans les plans à Belgrade. S'il n'est pas à Belgrade, c'est qu'il y a un gros problème, ça c'est sûr.
Ouais, moi je suis d'accord avec Joss pour moi. C'est Belgrade qui... Enfin voilà, c'est le
Belgrade qui sera le juge de paix.
C'est une coalition, quoi.
Début de complot. T'inquiète, tonton, on va parler de Rabiot, là, du coup.
Non, mais ce qu'on peut espérer... Alors, dans deux minutes, Rabiot, mais pour finir sur le cas Eddy, bien sûr qu'on peut espérer Edinson Cavani avec ses compères Neymar et Mbappé contre Belgrade, mais est-ce que c'est vraiment ses compères? Parce que la question, c'est pas non seulement est-ce qu'il va jouer un peu plus, mais surtout, est-ce que Neymar et Mbappé vont jouer avec lui pour l'instant? Une vraie complémentarité, un match où ils sont en forme, au top, tous les trois ensemble.
Ce sera une des clés à Tourelle, qui a pour l'instant réussi beaucoup de choses. C'est peut-être sa dernière mission là de la première partie de saison, c'est d'arriver à faire jouer ces trois joueurs qui feraient rêver n'importe quelle équipe au monde et qui, pour l'instant, n'arrivent pas complètement à se trouver sur le terrain. Et c'est bien dommage.
On a des réactions là sur alors Rabiot, évidemment tout le monde attend ton avis, donc on va faire un petit peu patienter. Il y a Dric qui nous dit Rabiot bye bye et Cavani ça sent la rupture. Claude nous dit El Matador, sa gestion c'est du gâchis. Zwobada nous dit je pense que Tourelle et Cavani ça sent le sapin. Hein, petite blague d'époque.
Blague de saison effectivement.
Exactement.
Et ça va nous mettre les boules.
Et si... C'était
la totale, le combo, le grand chelem.
Et il y a Cyril qui nous dit, et au fait, Rezé, il joue quand?
Rezé? C'était la séquence blague, en fait. Hein.
Voilà. Excusez-nous. Bah, on a des internes drôles, excusez-nous. On a le public qu'on met avec, messieurs.
Non, hein, c'est très bien. Si ça pouvait un petit peu détendre notre avis, si jamais il est tendu, d'ailleurs.
Freddy, qu'on salue parce qu'il nous suit de Suisse.
De Suisse, effectivement. Mais la planète entière suit Tribune PSG, il faut le savoir. Hein.
Hyper connecté.
Parlons maintenant de notre absent préféré, messieurs, dames. J'ai nommé Adrien Rabiot. Alors lui, c'était pas compliqué, hein. Il était pas sur le banc. Il était... Est-ce qu'il était en tribune, d'ailleurs? On ne sait même pas, d'ailleurs.
C'était annoncé, il était absent pour raison familiale.
Ouais, pour raison familiale.
Bah, là, il y a deux possibilités. Mmh. Ou c'était vrai, effectivement, et puis on lui souhaite plein de bonnes choses s'il a des problèmes familiaux. Mmh. Soit c'était de la communication et qu'effectivement, le fil est rompu. Mmh. Si on regarde les faits, on peut se dire que pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être au mieux entre Rabiot et le Paris Saint-Germain à quelques jours de la fin, enfin de la date fatidique qui fait qu'il sera libre dans maintenant même plus un mois, et que donc il pourrait quitter le Paris Saint-Germain gratuitement. Là où ça, ce serait assez terrible pour le club. Qui est
il reste encore deux possibilités. Hein. Il peut signer pour partir pour le mercato d'hiver en permettant au Paris Saint-Germain de récupérer une petite indemnité.
Exactement.
Par rapport à la valeur du joueur.
À une époque où le fair play financier surveille de près le Paris Saint-Germain, je crois que ce serait bien. Ce serait un petit cadeau qu'il pourrait faire à son club formateur. Maintenant, si le contact est rompu, que lui s'estime pour des raisons qu'on connaît pas. Hein. Je pense que de toute façon, il y a une erreur qu'a commis Adrien Rabiot. Or, ses mauvaises performances sur le terrain, c'est sa communication. C'est-à-dire que ce garçon ne communique pas du tout. Alors, je veux bien qu'on communique pas beaucoup, mais de temps en temps, même un minimum, pour envoyer quand même quelques signes. Là, c'est l'inconnu total. Personne n'est capable de dire aujourd'hui où en est la relation du Paris Saint-Germain.
Ça lui arrive de faire, pour montrer son attachement aux couleurs, parce qu'il est quand même assez paradoxal, ce garçon, ça lui arrive de communiquer avec la communauté, par exemple avec nos amis des Titi du PSG,
tout à fait.
Qu'on salue par ailleurs.
Exactement.
Mais à part ça, c'est vrai que sa communication, de façon plus globale, on va dire grand public, elle est proche de zéro.
Il aime le PSG, ça j'en suis persuadé, sauf que aujourd'hui, pour des raisons, et c'est là que je dis qu'il aurait quand même fallu communiquer un peu, et ben aujourd'hui, on ne sait pas où ça pêche, on ne sait pas si c'est le club qui lui a fait une super offre et lui qui est une tête butée, ou il estime que le club ne lui a pas fait la bonne proposition et que par rapport à ce qu'il apporte ou ce qu'il a déjà apporté, parce que c'est quand même un mec qui a plus de 200 matchs avec le PSG à seulement 23 ans, ce qui est quand même exceptionnel. Voilà, on ne sait pas et ça laisse ça et ça fait parler et je pense que de toute façon
parce qu'il n'y a pas tout acheté
en plus
et
on parle de son agent, on parle de sa mère et tout, mais moi je reviens sur ce qui s'est passé avec l'équipe de France quand il a refusé d'être remplaçant des remplaçants. Je reste persuadé que c'est une décision qu'il a prise seul.
Est-ce que c'est pas le début de la fin, ça?
Si,
pour lui
au Paris Saint-Germain
en tout dans sa carrière, je pense qu'il a c'est une trop grosse erreur de communication qu'il a fait et
on se met à la place d'un coach comme Thomas Tuchel qui, on l'a vu, sait sur la forme être séducteur, assez souple, mais sur le fond qui exige quand même un vrai respect, une vraie discipline de la part de ses joueurs. Est-ce que lui, venant de son expérience allemande, il n'a pas eu un petit peu peur de ce Rabiot
Le problème, il est bien parce qu'au début, il lui a envoyé quand même des messages hyper sympas en lui disant qu'il était un grand joueur, un futur très grand joueur, et que Paris l'aimait et qu'il avait sa place. C'était le plus beau des messages. Après ce qui s'est passé derrière, au niveau des contrats, au niveau de la longueur du contrat.
Mais tu veux qu'il se passe quoi? Tu veux qu'il se passe quoi en fait?
Là, tu
le défends, mais t'es au PSG. Donc si tu veux de l'argent, il y aura de l'argent.
Il y a bien quelque chose qui va pas.
Mais bien sûr, mais c'est pas du côté du PSG.
Et je dis
ça
pas
peut pas être du côté du PSG. C'est
alors,
un joueur.
Alors admettons que ce soit de son côté à lui.
Oui.
Qu'est-ce qui va pas? Bah, il a pas la somme qu'il veut avoir.
Mais c'est pas possible.
Ou il a pas la longueur de contrat qu'il veut avoir.
Le seul truc, ça peut être que ça, la longueur du contrat.
Il était titulaire, il va même pas exiger une place de titulaire, il l'était. Donc, c'est une histoire de pognon. Et c'est une histoire
c'est une histoire de pognon, c'est une histoire de durée de contrat, ça peut être que ça. Mais dans tous les cas, c'est un joueur qui est difficilement gérable, qui a une ligne de conduite assez étrange, il va s'en aller, mais il laissera une très mauvaise image au PSG. Parce qu'il n'aura pas accompli ce qu'il aurait dû accomplir. Moi, je me rappelle de déclarations de lui, je voudrais être le Steven Gerrard du PSG. Ouais, Steven Gerrard, il n'aurait jamais fait ça à Liverpool, en fait.
Mais je pense que quand il l'a dit, il était sincère. Après, les faits.
Qu'il a été sincère sur le moment, la vérité aujourd'hui, c'est qu'il ne veut pas re-signer.
On peut toujours dire des choses et être sincère. Et après, les choses évoluent.
Les amis, comme prévu, ça dégringole un petit peu pour Adrien Rabiot sur notre live.
Exactement. Il y a François qui nous dit Rabiot, c'est la fin. Olivier dit il va finir à Rennes avec Ben Arfa. Romain nous dit si Rabiot part, Enrique saute, est-ce que ce serait pas un mal pour un bien? Et Laurent nous dit Rabiot aime peut-être le PSG, mais Véro, non. Véro, c'est sa maman.
Bonjour Véro.
Voilà, salut Véro. Et Marco nous dit de toute évidence, il n'a jamais voulu prolonger. Il aurait dû le dire clairement dès cet été.
Bah oui.
Ce qu'il veut, c'est partir libre et toucher une grosse prime à la signature. Son implication au cours de ces derniers mois parle d'elle-même.
Alors, effectivement, il y aurait un échec hein, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que Adrien Rabiot, un gros échec même, Adrien Rabiot, star du PSG, formé au PSG, parte dès maintenant pour quoi en gros? Pour 0 euros ou en tout cas pas grand-chose? Est-ce que c'est pas plus l'échec de Thomas Tuchel, ou plutôt pas moins l'échec de Thomas Tuchel que celui d'Antero Henrique, qui est responsable du mercato, qui était censé être responsable des négociations avec le joueur.
Mais Tuchel, il a rien à voir dans le problème de Rabiot.
Il a récupéré les deux noms avec les pièces qu'il avait
liés en fait, parce que.
Oui, je suis d'accord. Là, pour le coup, Tuchel,
il a vraiment tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions avec la calinothérapie et tout ça.
Si Tuchel, il avait la main sur ces choses-là, il aurait déjà eu un remplaçant à Thiago Motta.
Par contre, Tuchel, il est très intelligent. Il nous a déjà donné une tendance de ce que serait le mercato d'Adrien Rabiot, en disant voilà, quand une femme elle te dit pas non, bah t'as pas dit oui quoi. Donc finalement c'est vrai, c'est une très très belle comparaison. Il va pas re-signer, il a pas envie de rester au PSG. Et son gros souci, c'est sa communication. Faut arrêter aussi de blâmer ses agents. C'est un adulte, Rabiot, c'est un homme. Il peut gérer sa carrière tout seul.
Je suis d'accord aussi.
C'est lui qui fait ses choix. C'est lui qui a choisi de pas être remplaçant des remplaçants. Non. C'est lui qui décide de pas re-signer dans son club formateur. Et au vu de l'image qu'il laisse à travers tous ses mauvais choix, moi, je sais pas comment il a envie de se rattraper dans un club. On parle du Barça, un club où il y a une institution, un respect des choses, je sais pas, je comprends pas le joueur. Vraiment.
Ça continue à dégouliner sur le Facebook Live.
Oui, exactement. Il y a Hervé qui nous dit, nous avons laissé partir Blaise Matuidi pour faire de la place aujourd'hui.
Oh là là là.
Je prends son attitude comme une énorme trahison envers son club formateur.
Exactement. Quelle trahison, on aurait trop dû garder Matuidi.
Ça a été une énorme erreur de laisser partir Matuidi. Énorme erreur.
C'est un mot quand même qui est assez fort, hein, trahison. Alors je me fais un petit peu deux secondes quand même l'avocat du joueur. Il y a quelqu'un qui faisait remarquer, on le connaît bien, dans cette émission, il s'appelle Loïc Tanzi, il faisait remarquer à juste titre que c'est quelqu'un qui s'est jamais plaint de son salaire, alors
mais
que
non.
C'est un des joueurs les moins bien payés de l'effectif et qu'il aurait pu, comme quelqu'un avec qui joue sur la même ligne depuis plusieurs années, comme un certain Marco Verratti, réclamer son augmentation, sa revalorisation, sa prolongation de contrat chaque année.
Il a été 100% d'accord avec lui. Ben bien sûr, mais évidemment, mais c'est pour ça que je dis
correct de pas
au niveau de la communication. Non mais là, ça prend des.
On va pas lui donner une médaille parce qu'il a pas demandé des revalorisations.
Non mais là, vous êtes. Non mais
à un moment donné, essayez de trouver des points positifs.
Non, je trouve extraordinaire. D'abord, comment Adrien Rabiot fait réagir? Il faudra se poser la question. C'est-à-dire que c'est vraiment amour et haine avec les supporters. C'est-à-dire que les gens l'ont tellement aimé et ont tellement espéré qu'aujourd'hui, c'est bien malheureux, quand je l'ai entendu se faire siffler encore il y a pas longtemps, c'est devenu terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne parmi les supporters du PSG ne peut parler d'Adrien Rabiot sans en dire du mal. Il nous a trahis. On a l'impression qu'on est dans un couple qui se déchire. Et c'est un peu ça d'ailleurs. Hein. C'est une histoire d'amour qui finit mal. On dit que les histoires d'amour finissent mal en général. Mais c'est exactement ça. On a l'impression qu'entre Paris et Rabiot, c'est ou l'amour ou la haine. Il y a eu de l'amour, beaucoup d'amour. Et maintenant, c'est à la hauteur. Il y a beaucoup de haine. Tout est déplacé. Il y avait trop d'amour et il y a trop de haine aujourd'hui.
Et au milieu de cette scène de ménage dans cette histoire-là, il y a quelqu'un qui va devoir réparer les pots cassés. C'est un certain Antero Henrique qui a, les amis, une pression maximale pour le mercato d'hiver.
Et tant mieux.
Si jamais effectivement il se confirme qu'Adrien Rabiot quitte le PSG, on est d'accord.
Oui,
ça va être compliqué. Allez, je vous propose maintenant de terminer. Ici c'est Paris. Et ici c'est le dernier débat sur le Ballon d'Or ce soir. Le Ballon d'Or avec trois Parisiens sur la liste des nominés. Mais bien sûr, on pense surtout à un jeune Parisien, il n'a même pas 20 ans, il s'appelle Kylian Mbappé. Est-ce que vous le sentez pour ce soir, les amis?
Alors moi, je vais vous dire, il y a trois possibilités. C'est qu'est-ce qui a été choisi cette année pour remettre le Ballon d'Or? Si vous décidez de le remettre au palmarès, alors c'est Raphaël Varane qui doit l'emporter. Il a gagné les deux principales épreuves. Il a eu un rôle important dans les deux équipes. Il a gagné la Ligue des Champions et il a gagné la Coupe du Monde. Si vous récompensez le joueur le plus influent, vous récompensez Modric parce que...
Faux.
Attends, je finis et après tu...
Donc... Non mais faux, mais bah, c'est faux dès le début.
Bah, c'est ma vision.
Mais Toto, au Real Madrid, ça n'a pas été plus influent déjà. Donc
Modric, il a été influent au Real.
Il
a amené, pas tout seul, mais il a amené la Croatie en finale. Et ils ont perdu contre la France en finale. Et si vous récompensez le talent, le devenir, la personnalité... Et forcément, une Coupe du Monde quand même au passage à moins de 20 ans, alors c'est pour Kylian Mbappé.
Je vais faire le même système que tonton. Si on se base que sur palmarès, ok pour Varane. Sur le joueur le plus influent, c'est pas Modric, puisque au Real Madrid, c'est pas le plus influent sur l'année dernière. Le plus influent, le plus décisif, c'est un certain Cristiano Ronaldo. Donc, si on fait le calcul, ce serait Griezmann sur l'influence. Exactement. Qui a ramené son club, l'Atlético Madrid, en finale et qui a gagné cette Europa League et qui a aussi contribué au succès de la France. Et après, au mérite, au talent, etc., etc. Bah oui, ce serait Kylian Mbappé. Mais moi, apparemment, ce serait Modric qui serait le gagnant, et je comprends pas sur quels critères ils se sont basés.
D'autant qu'il fait pas un début de saison, en tout cas une première partie de saison
catastrophique, faut dire ce qu'il y a.
On peut pas dire.
C'est la cata. Non,
je vais aller plus loin. Moi, je trouve que c'est terrible ce que je vais dire. Je vais me faire démonter sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. Mais Modric, il a pas une tête de ballon d'or.
C'est un délit de sa gueule,
mais aujourd'hui, on est aussi, le sport, vous le savez, est un secteur qui véhicule des choses, et aujourd'hui, le paraître fait que, un Cristiano Ronaldo, ou un Kylian Mbappé, voire un Neymar, c'est plus vendeur.
T'as raison, mais quitte à me faire l'avocat du diable, justement, puisqu'il a moins une gueule de vainqueur et moins une gueule de star, Modric, est-ce que ce serait pas, si c'est lui qui gagne, la victoire du foot?
Peut-être, mais pas du tout.
Alors là, ce serait la victoire de l'UEFA, surtout. Parce que j'ai l'impression que le Real Madrid, ils sont très privilégiés, ils sont très influents. J'en suis quasiment sûr que si Cristiano n'avait pas signé à la Juve, il aurait été le joueur qui aurait gagné le trophée The Best, et il serait en pole position pour remporter le Ballon d'Or. Effectivement, c'est pas un vol si Modric le remporte, parce qu'il a fait une belle prestation avec la Croatie.
Il a déjà eu plein de titres là-dessus, là.
Il a eu des titres par rapport à ça. Non, mais par rapport à sa saison
avec
la Croatie.
Dans les titres individuels, il y en a qu'un.
Mais il a eu le meilleur joueur de la Coupe du Monde.
Bah oui.
Il en a eu un autre de l'UEFA ou je sais pas quoi.
Non, mais tonton, honnêtement, Modric sur sa saison mérite le Ballon d'Or.
Non, mais c'est génial, ça veut dire qu'il faut être deuxième à chaque. Enfin, moi, j'ai un problème de classement.
Et surtout,
attendez ce soir.
Le vrai souci pour moi, ce serait quoi? Ce serait que si Modric a le Ballon d'Or, comment j'expliquerai à mes enfants que Xavi ou Iniesta n'ont pas eu?
Oh, ça c'est beau.
Comment expliquer que Xavi, Iniesta, Schneider n'ont pas eu, mais Modric
l'a pas eu?
Comment?
Tu feras comme moi quand j'expliquerai à mes petits-enfants que Rabiot l'a pas eu.
C'est bientôt la fin, c'est pour ça que tu...
Qu'est-ce que ça raconte sur le live, Émilie?
Sur le live, tout le monde connaît la liste. Alors, je sais pas, il paraît que la liste a fuité. Donc, alors attention, on y va. Donc, Modric numéro 1, numéro 2 CR7, 3e Griezmann, 4e Mbappé. Écoute, Omar, on t'écoute et on verra ça tout à l'heure. Si c'est ça, je vais pleurer des larmes de sang.
Effectivement, c'est le quatuor, si c'est pas le quartier qui revient le plus depuis quelques heures maintenant, depuis le début de l'après-midi.
Mbappé, il est trop jeune pour moi. Attention,
parce que il gagnera pas la Coupe du Monde tous les ans, donc Mbappé, donc ni la Ligue des Champions tous les ans. Donc le coup de ça peut arriver, il l'aura sûrement l'année prochaine. Mais pourquoi il l'aurait l'année prochaine?
C'est vrai.
Il a fait une super saison. Il est vainqueur de la Coupe du Monde. Je suis désolé. Après, c'est pas l'âge qui fait que l'histoire du trophée Raymond Coppa, vous oubliez.
Trophée Raymond Coppa, en gros, c'est le Ballon d'Or pour les jeunes.
Raymond Coppa, c'est la première édition. Il n'y a pas de passé. T'as envie de t'inscrire derrière Di Stéfano, derrière
Kroos. Tu vois bien qu'il y a un lobby, il y a un problème. Le Real Madrid, ils sont privilégiés. Il y a Griezmann qui a gagné l'Europa League et la Coupe du Monde. Comment Modric peut avoir le Ballon d'Or devant lui. Bah, attends, même si je suis pas pour Griezmann,
attendons,
mais
comment
moi
les
je veux Varane.
Bah oui, la logique voudrait que ça soit.
C'est la presse. C'est 132 journalistes de 132 pays qui ont voté.
Bah ouais. Bah.
Alors voilà. Moi je pense, c'est pour ça que je.
Moi j'aimerais bien discuter foot avec les 132 qui ont voté.
Moi je crois en Mbappé jusqu'au bout. Je crois. Tant qu'ils ouvriront pas l'enveloppe.
Toute façon, c'est simple. Tous les joueurs qui ont été interrogés sur qui devrait avoir le ballon d'or, parce que c'est les joueurs ne votent pas, mais on leur a posé la question. La plupart ont dit Mbappé.
Voilà. Donc, et moi, je pense d'accord que Mbappé a marqué tout le monde à l'étranger avec sa Coupe du Monde.
Ok, il a marqué les esprits, ça c'est très clair, avec son talent et avec sa gueule de star, hein, très clairement. Mais malgré tout, sur le terrain, qu'est-ce qui lui a manqué si jamais ce soir, comme ça se dessine, il n'a pas le ballon d'or? Qu'est-ce qui lui a manqué?
Il y a un très beau parcours européen avec le PSG, malheureusement.
Oui, mais.
Juste ça?
Bah oui.
Je suis pas sûr.
Tonton, il arrive en demi-finale de Ligue des Champions, tu lui donnes, c'est sûr.
Mais moi, je lui donne de toute façon.
Non, donc, mais ce qui lui a manqué, c'est quoi?
Pour moi, il lui a rien manqué. Ok, il aurait pu mettre des quadruplés, mettre un triplé ou un doublé face à Liverpool là-bas. Bon, je suis pas sûr que ça ait changé grand-chose. Il a fait des choses fortes cette année.
Il fait une magnifique Coupe du Monde. Après, avec le PSG, autant en Ligue des Champions avec Monaco, il a été décisif. Jusque-là.
Il fait une belle finale. Il
est
très bon.
Avec le PSG en Ligue des Champions, sur cette première partie de saison, il fait des bons matchs. Et il a pas démérité non plus contre Liverpool. Mais il a pas.
Alors reprenons dans le sens, parmi tous les autres candidats.
C'est ça.
Qui s'est démarqué? Est-ce que Griezmann fait un super début de saison avec l'Atlético?
Il marque des buts quand même. Mais Modric, c'est catastrophique.
Alors Modric, c'est catastrophique. Et Varane, c'est pas il est inexistant, donc il fait pas grand chose dans un Real qui va moins bien. Donc alors jugeons jusqu'en mi-juillet, puisque c'était le jour de la finale le 15, eh bien moi je dis que la logique voudrait que Kylian Mbappé
ce scandaleux. De toute façon,
je l'ai annoncé ici le 27.
Est-ce qu'on est dans la logique de Tonton sur le live, sur les commentaires, Émilie?
On est dans la... Non, on a de tout, là. Les gars, on a du Kylian Ballon d'Or. On a de toute façon, le Ballon d'Or n'est plus logique depuis 7-8 ans.
Bah oui.
On a du CR7, on a du Griezmann mérité. Non, pour le coup, c'est vraiment réparti. Et il y a Régis qui nous dit, et Régis, merci, on va demander la VAR pour le Ballon d'Or.
Je pense qu'il a raison. Effectivement, elle arrive en Ligue des Champions. À partir des huitièmes de finale.
On y a cru, on va y croire quand même jusqu'au bout pour Kylian Mbappé, même bien si sûr. Le plus important, évidemment, c'est pas les récompenses individuelles, et il saura le dire très bien aussi, c'est la Ligue des Champions, c'est les récompenses collectives, c'est les titres. Malgré tout, il n'a pas 20 ans, il sera dans le top 3, si c'est pas dans le top 3, dans le top 5, certainement. Est-ce que c'est pas une belle victoire, une magnifique victoire déjà pour
mais
un
non,
joueur qui n'a pas 20
ans? L'histoire ne retient que les vainqueurs.
Ah, oui, que les vainqueurs. Oui.
Tu gagnes la Coupe du
Monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Manu, le 5e du classement du Ballon d'Or.
Non, le 5e, on ne saura pas jamais, mais celui-ci, parce qu'il a moins de 20 ans. Est-ce que ça sera pas la première fois? D'ailleurs, je suis pas un spécialiste de l'histoire du Ballon d'Or, ça sera pas la première fois que dans le top 5, dans le top 3.
On retiendra pas ça, et puis il a déjà dit, il faut pas lui parler d'âge.
Mais non, mais oui, il a le talent, il a réussi des choses. Mais franchement, il le mérite. Hein. C'est pas parce qu'il joue au Paris Saint-Germain.
Non, il mérite
parce que je pense qu'il
vrai.
Le mérite plus pour ce qu'il a fait avec l'équipe
en
de France,
équipe de France
qu'avec le
ça,
Paris Saint-Germain. Là, pour le coup, on est d'accord. Ouais. Voilà, mais il le mérite. Il a été excellent. C'est le meilleur Français sur la longueur en Coupe du Monde.
Oui.
Bah oui. Alors voilà, c'est tout. La France est championne du monde, il est le meilleur. Alors,
un Français qui ne gagne pas le Ballon d'Or cette année, c'est... En fait, c'est quel
c'est
message envoie aussi voilà l'UEFA. C'est quoi
c'est
le message
ça,
en fait,
c'est ça le mot.
Oui,
hein
c'est pour ça.
Quel est le message qui est envoyé? Tu peux réaliser une superbe Coupe du Monde, la gagner, mais tu
c'est
ne seras
pas.
Et depuis quand
on
attend en français depuis 98 et la victoire de Zidane et de la France en Coupe du Monde, ça a du sens. 20 ans après.
On va pas râler avant le résultat officiel. Non, ça se trouve, il y aura un Français. Et puis, si c'est pas cette année, ça se trouve, ça sera la saison prochaine. Et ça sera le Français qu'on atteint. Ça sera Kylian Mbappé, qu'on espère avoir le plaisir de retrouver dès mercredi soir. Prochain rendez-vous sur France Bleu Paris. Ça sera à partir de 21h avec Nicolas Olivier qui va nous commenter ce Strasbourg PSG. Et puis, prochain rendez-vous en fin de semaine, samedi 16h, avec le match contre Montpellier au Parc des Princes. Ça sera l'occasion aussi, surtout l'occasion de retrouver notre Bruno Salomon national.
On l'embrasse.
Bisous. Bisous.
D'ici là, bonne soirée à tous.
À bientôt.